Alors après la mort du Père Marie-Joseph, les paroles de Dieu qui me revenaient régulièrement. À l'époque, j'étais déjà séminariste, donc au séminaire en 89, donc en 93. Et c'est une parole de Dieu qu'on écoute en fait au commun des pasteurs dans l'office de Brienne. C'est la lettre aux Hébreux. Souvenez-vous de ceux qui nous ont dirigés. Ils vous ont annoncé la parole de Dieu. Méditez sur l'aboutissement de la vie qu'ils ont menée et imitez leur foi. Jésus-Christ hier et aujourd'hui est le même, il l'est pour l'éternité. Hébreux chapitre 13. Et effectivement, cette parole habitait mon cœur parce qu'on m'invitait au souvenir vivant du Père Marie-Joseph près de Dieu et qui continuait à enfanter mon sacerdoce. Et j'étais invité par ce biais à imiter sa foi. Et je crois que c'est pas réservé aux prêtres, on est tous invités, et c'est mon temps de carême, de renouveler notre foi dans le Christ, qui est la bonne nouvelle. Et alors, on m'a demandé de témoigner comme enfant du Père une vocation de prêtre. Bon, je parlerai principalement du sacerdoce, du Père Marie-Joseph. Il a été ordonné un 19 mars, justement, en la fête de Saint-Joseph, qui est père de la Sainte Famille et d'une multitude. Et je crois que le Père a reçu vraiment cette grâce de la paternité. D'une multitude. Alors oui, ce prêtre, ce fils de Saint-François, ce père, ce pasteur, qui m'a guidé durant ma jeunesse, comme j'y ai, j'ai à 16 ans et jusqu'à mon séminaire. Donc ce prêtre m'a donné le seul trésor pour lequel il vaille la peine de tout vendre, le Christ. Et pourtant, je n'ai pas vendu grand-chose. C'est la puissance de la miséricorde de Dieu. Ce prêtre, il m'a fait connaître le Christ. Il m'a fait aimer Jésus. Ou plutôt, grâce à lui, Jésus s'est fait connaître à moi, il m'a révélé son amour. Alors, j'ai découvert la jeunesse franciscaine au cours d'un pèlerinage à Altötting, en Bavière. Et c'est donc mon premier souvenir du Père Marie-Joseph, quand j'ai 16 ans. Et pour la première fois, alors que je connaissais quand même l'un d'autres prêtres déjà, et dans une famille chrétienne, pratiquante, pour la première fois, je découvrais un prêtre amoureux. Amoureux du Christ, passionné du Christ. Et pas une passion exaltée, mais tout son être exprimait une relation très forte, intense et intime avec le Christ. Et aussi avec le Père et l'Esprit Saint. On parlait souvent de l'Esprit Saint, et après nous communiquions aussi vers le Père. On peut dire que sa parole, quand il nous parlait en enseignement, en homélie, exprimait vraiment la vibration de son cœur pour Dieu, alors qu'il était dans une sécheresse complète. Au moins la fin de sa vie, ce que j'ai connu la fin de sa vie. Je vous cite ce qu'il disait dans une homélie. Il s'est arrêté un moment dans l'homélie et il a dit « En disant cela, je n'ai aucun sentiment. Je suis trop fatigué. Je suis devant le tabernacle comme si j'étais un morceau de bois. Mais je ne m'en fais pas. » Très important. « Mais je ne m'en fais pas. » Pourquoi ? Le bon Dieu ne me demande pas des sentiments. Il me demande seulement mon audace de croire à sa parole. De le prendre au sérieux. Quand il raconte la dernière scène, Saint Jean souligne, il nous a aimés jusqu'à l'excès, il s'est donné à nous. Le Père ajoute, Jésus est allé jusque-là. Vous voyez, il était très sec, il avait plus de sentiments, plus d'émotions, quand il était dans la prière, face au Saint-Sacrement. Et pourtant, il ne s'en fait pas. Pourquoi? Parce qu'il a la foi. Dieu lui donne la grâce de le croire dans sa parole. Et puisque Jésus nous a dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », qu'il nous aime à l'excès, et que je m'appuie sur cet amour dans la foi, et c'est ça qui me fait tenir dans la prière. C'est ça qui fait tenir le Père, c'est ça qui nous fait tenir nous aussi, notre prière quotidienne. Souvent, en plus de notre chambre, notre coin de prière à la maison, il n'y a pas ce sacrement, donc c'est encore plus difficile, c'est vrai. Mais Jésus est là de la même. Par la même puissance, la même intensité, il a pris possession de notre cœur au baptême, et donc il est sa demeure, il est son temple, il est le temple de la Sainte Trinité. Eh bien, Seigneur, je prends ta parole, et je relis régulièrement un peu la parole, quand je commence à tenir sec dans la maison, et alors ça me remet en lui, je reprends la queue de toi, et ça, il fait tenir 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, une heure. C'est comme ça qu'on progresse dans la maison. C'est vrai que dans la messe, parfois, il frappait sur le haut de l'autel en lui disant « Si vous saviez comme je suis sec, Et qui sait que le peuple est aux ailes. Alors, il ne fait pas cela pour parler de lui, mais comme un père et un pédagogue, pour nous aider nous aussi à vivre de soi. Parce qu'une fois qu'il ne serait que sensible, alors c'est vrai que c'est bon aussi que la foi soit sensible. Et souvent, le bon Dieu, au début de la vie spirituelle, donne des grâces sensibles. Parce qu'il sait que nous sommes aussi des êtres incarnés et que notre corps a besoin d'exprimer nos émotions. Et c'est beau dans un gros plan de l'ange, même en se servant de notre corps, en frappant des mains, il exprime aussi la vibration de nos sens. Mais la foi va plus loin et plus profond. Et c'est à cela que le Père voulait nous mener. Une foi et un amour viril. Et souvent, disons bien, je veux que vous posiez vos raisons de croire. Justement, pour pas être un sentimentalisme, et pour nous appuyer sur la parole de Dieu, qui est présente dans les Écritures et qui est transmise par l'Église. C'est tout son corps aussi qui vibrait de cette relation à Dieu, dans ses attitudes. À l'époque où je l'ai connu, il était déjà âgé et malade, et pourtant il s'agenouillait encore. Ça me passe à Jean-Paul II aussi, qui s'agenouillait jusqu'à la fin de sa vie. Il s'agenouillait devant sa sacrée, devant le tabernacle, de façon très simple. Il tenait la tête dans ses mains. Et il nous faisait entrer dans sa prière, finalement, avant de commencer la prière du matin. Comme Saint François ou Sainte Thérèse, il se savait les mains vides. Et il disait assez souvent, ce que je le fais parce que le bon Dieu l'a voulu. Et je n'ai qu'un seul mérite, un seul. C'est d'avoir pris au sérieux le bon Dieu, qui nous a parlé par François et par l'autorité de l'Église. Il faut toujours écouter et écouter sans crainte. C'est l'autorité de Pierre et du Saint-Père. Progressivement, après le prêtre amoureux du Christ, j'ai découvert le pasteur, celui qui guide. Un pasteur à la fois rempli d'amour, de miséricorde et exigeant. Il voulait la sainteté, vraiment pour chacun de nous. Alors grâce à IJF, qui m'a aidé à saisir la grâce d'avoir un père spirituel, et les jeunes, bah, aidez-vous aussi, hein, quand ce n'est pas votre père spirituel, aidez-vous à en avoir un. Encouragez-vous à cela. Et donc, moi, grâce à cette GM, j'ai pu demander ce qu'on me fait spirituel. Et quelle grâce ça a été. Je m'en serai redevable jusqu'à la fin de ma vie. C'est vrai qu'un jour, il a dit à quelqu'un, et c'est dans les livres qui ont été rédigés, si vous saviez à quelle profondeur Dieu m'a fait peine, je suis peine. Et c'est vrai que dans la convenance spirituelle, on expérimentait cela de façon toute proche. On sentait le souci qu'il avait de ceux qui lui étaient confiés. Comme Jésus, qui a le souci de chacune des brebis, qui va chercher la brebis perdue, quand elle s'est égarée, qui accompagne celle qui est en pleine forme, pour la faire grandir dans la sainteté, qui guérit celle qui est blessée. Et en même temps, il avait une très grande disponibilité, une très grande attention aux jeunes. Je peux dire qu'il aimait particulièrement les JF. Je me souviens quand on venait au week-end JF à Vich, c'est arrivé l'une ou l'autre fois qu'il ait renvoyé un adulte qui voulait le voir, alors que comme c'est lui qui gère, il voulait donner la priorité aux jeunes. Et donc, il essaie de renvoyer des personnes qui voulaient le voir pour accueillir un jeune dans son bureau, qui voulait soit s'empêcher, soit parler un peu. Sa disponibilité allait aussi jusqu'au fait que quand on lui téléphonait, pour confier un combat, une peine, pour demander un conseil, tout de suite il répondait. Et c'est vrai que parfois, il avait quelqu'un en face de lui dans son bureau. Alors, bien sûr, il ne s'étendait pas, ou soit par respect pour la personne qui l'accueillait. Mais en quelques mots, et d'après mon expérience, il arrivait à nous replonger, dans la confiance, dans l'amour du bon Dieu. Et je retrouvais la paix du cœur, même par ces quelques instants de toute la vie. On peut dire qu'il vivait vraiment ce que le pape François dit aujourd'hui au prêtre. Et moi, je suis de plus en plus frappé en voyant le pape François et en l'écoutant. Je retrouve vraiment le père Marie-Josette. Dans cette attitude de père, vraiment de père spirituel, de pasteur inlassable. Et le pape disait une fois à des prêtres, être au service. Je me rappelle d'un père spirituel très grand. Les gens allaient le voir, au point que quelquefois, il ne pouvait pas finir de prier tout son prière. Et la nuit, il allait auprès du Seigneur et disait, Seigneur, moi, je n'ai pas fait ta volonté, ni non plus la mienne. J'ai fait la volonté des autres. Ainsi, tous les deux, le Seigneur et lui se consolaient. Très important, c'est pour nous et même pour des parents, quand vous êtes submergés par votre devoir d'État au service de votre famille et de vos enfants, vous avez fait la volonté des autres, et le Seigneur s'en réjouit, même si vous n'avez pas pu faire tout ce que vous voulez pour le vivre en priant davantage de cela. Le pape continue, le service signifie faire très souvent la volonté des autres. Un prêtre qui travaillait dans un quartier très humble, une favela, a dit « J'aurais besoin de fermer les fenêtres, les portes, tous, car à un certain moment, on me demande tant et tant de choses, telles choses spirituelles, matérielles, au point qu'à la fin, j'aurais envie de tout fermer. Mais ce n'est pas cela ce que ferait le Seigneur, disait-il. C'est vrai, on ne peut pas guider un peuple sans le servir. On ne peut pas guider une famille sans la servir. Le service du pasteur. Le pasteur doit toujours être à la disposition de son peuple. Le pasteur doit aider le peuple à grandir, à marcher. Un jour, j'ai entendu dire d'un curé, cet homme connaissait le nom de tous les habitants de son quartier, même le nom des chiens. C'est beau, il était proche et il aidait. Il était si proche. Proximité, service, humilité, pauvreté et sacrifice. Le peuple termine en disant, je me souviens des vieux curés de Buenos Aires, quand il n'y avait pas de téléphone portable ni la messagerie, ils dormaient avec le téléphone près d'eux, personne ne mourait sans les sacrements. C'est une époque où on appelait principalement le prêtre des sacrements. On les appelait à n'importe quelle heure, ils s'y levaient et ils y allaient. Là, vraiment, le père, je peux dire, on a vécu cela. Le prêtre de paroisse, c'est vrai, à travers le sacrement du pardon, à travers le conseil qu'on peut lui demander, toujours une immense disponibilité. J'ai découvert aussi en lui notre prière. Il fut vraiment un guide et un pédagogue de la prière. C'est lui qui animait la prière du matin pendant les récoltes fraternité et les rencontres JF. Il se mettait à genoux devant l'autel et il nous emmenait dans sa prière. Alors un peu aussi comment un peu il faisait dans sa pédagogie, et ça peut nous servir nous aussi quand on est parents pour nos enfants ou quand on est responsable chez LG, GDS, Le Corbet pour ceux qui nous sont confiés. D'abord, il nous enseignait les prières. Le Seigneur donne-moi de t'aimer, sa vie de faire l'Esprit du Travail, sa prière JF, la prière du pur amour, du Saint-Curé, surtout la fin de sa vie. Je vous aime, mon Dieu, mon seul désir est de vous aimer jusqu'à la fin de ma vie. Et bien sûr, la prière des enfants de Fatima, que dont j'avais apprise. Et ça, il aimait nous la dire, nous la faire prier chaque matin, à chaque réponse, en demandant si ça devienne même notre prière du matin chaque jour. Alors, vous trouvez cet exemple dans le livre « Être la joie de Dieu » au page 384. Donc, c'est sa prière du matin avec nous, en réco. D'abord, il préparait les cœurs. Il commençait en disant « Bien que je sois persuadé que beaucoup d'entre vous ont déjà fait la prière du matin », son nom de pédagogue aussi, qui à la fois a confiance mais invite à ce qu'on fasse la prière du matin dès le lever du lit, un beau signe de grand. Je ne sais si vous en voyez l'importance. J'en ai presque honte, mais je ne me trompe pas. La vie est telle que les meilleurs chrétiens aujourd'hui ont du mal à commencer leur journée comme il le faut par la prière. Vous voyez, ils se mettent à la portée aussi, en éprouvant nos difficultés. Et après, il allait plus loin, il nous en allait plus loin. Mais vous savez très bien, quand la journée est commencée avec Dieu, c'est tout autre chose. Et souvent, il disait aussi, quand on commence pas par le Notre Père dans la journée, et bien la journée est perdue. Quand je pense que la Sainte Vierge est venue à Fatima pour ce monde qui oublie Dieu, pour que les gens retrouvent l'adoration, le bon sens en somme. Du point de vue de la psychologie, de la sagesse divine, c'est magnifique. La Vierge s'est fait précéder par un ange qui a appris aux enfants, faites comme moi. L'ange s'est agenouillé et les enfants ont pu comme lui, ils ont prié. Je ne cesserai jamais de le dire jusqu'au dernier souffle de ma vie. Parce que je sais que la vie est telle que les meilleurs, à commencer par moi-même, pourraient commencer la journée tout de suite par le travail. Mais non, d'abord il faut élever son cœur vers Dieu. C'est magnifique, c'est ça la vraie religion. Le cœur, c'est l'essentiel. C'est du cœur de l'homme que tout procède. D'où la pédagogie divine, l'ange apprend aux enfants l'essentiel. C'est tout simple, une affaire de quelques minutes. Mais la journée est tout autre, c'est une journée chrétienne et non pas une journée païenne. Et après, nous devons prier la prière, tous ensemble, on disait, on peut le dire ensemble maintenant. Mon Dieu, je crois, je vous adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour tous ceux qui ne croient pas, qui ne vous adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Donc il a préparé nos cœurs, on a prié avec lui, et après il explique encore ce qu'il vient de faire. Tout c'est beau. On parle tellement de fraternité, de solidarité, de charité. Mais la vraie charité, la vraie solidarité est d'abord dans la prière. On dit « je vous demande pardon ». Souvent, on ne peut pas faire autre chose que demander pardon pour ce monde si éloigné de Dieu, qui oublie Dieu, qui a même la prétention de pouvoir se passer de lui. Souvent, on ne peut pas faire mieux. C'est ce qu'il y a de plus profond. « Mon Dieu, je vous demande pardon ». Quand on aime quelqu'un, « je vous demande pardon pour ceci, cela ». Vous voyez la compassion qu'il avait aussi pour le monde athée, le monde qui s'est remis de Dieu. Et quand il disait « je vous demande pardon », il faisait déjà appel, peut-être sans le savoir, que le message est apprécié quand pas beaucoup connu, mais c'est une chose de davantage, c'est l'objet des retours de Saint Faustin. Un Saint Faustin à qui Jésus dit « importe la miséricorde pour le monde, de ce que fait le Père à sa manière ». Alors ça nous pose, nous, des questions, comme le week-end à Cocktail, la fête de la sainteté. Est-ce que comme prêtre, parent, responsable de groupe, engagé en paroisse, ou dans des services, est-ce que nous emmenons les autres dans la prière? Est-ce que nous faisons prier les autres systématiquement au début d'une rencontre, d'une réunion? Est-ce qu'on prend un texte de la parole de Dieu pour commencer? Comment sommes-nous éducateurs de la foi et de la prière de nos frères? Cela, le Père Marie-Joseph, qui aimait beaucoup Saint-Jean Bosco, il faisait souvent lire des livres sur lui, dans celui de son frère, du grand éducateur. Et je pense qu'il a beaucoup puisé son sens de la pédagogie chez ce saint. Après l'homme de prière, l'homme est le prêtre comme homme d'église, comme ecclésial, qui aimait passionnément l'église. Il aimait l'église comme un mystère, c'est-à-dire qu'elle est le corps mystique de Jésus, animée et guidée par l'Esprit Saint, elle est communion des saints. Il aimait l'Église comme communion. Là, je vois la phrase que Fabien en parle, elle couvre des charismes. Il aimait l'Église dans ses pasteurs. Il nous a fait aimer le Saint-Père. Et tous les pas, bien plus que le monde. Il avait demandé notamment à Pilouse une bénédiction particulière pour gagner de nombreux jeunes à Jésus à travers Saint-François. Les JF qui sont ici, c'est encore le fruit de la bénédiction de Père Pilouse. Il aimait aussi bien sûr notre évêque, l'évêque du diocèse, et il n'hésitait pas à lui demander sa bénédiction pour tel ou tel projet. Son sens de la communion ecclésiale intégrait bien sûr le sens et la beauté de toute vocation dans l'Église. Combien il a aimé la vocation du laïc et a été un précurseur, même avant Vatican II. Il a aimé, bien sûr, et servi la vocation des consacrés, de Sainte Thérèse et de Saint Jean, et les nombreux prêtres qui l'accompagnaient. À un moment, il avait une quarantaine de prêtres tertiaires dans le diocèse de Metz. Si on écoutait l'Église, les victimes, c'est là le propre, la caractéristique d'un vrai fils de Saint-François, de tout vrai chrétien. Méfiez-vous du Père Marie-Joseph, fuyez-le même si vous voulez vous retenir par mille chaînes, le jour où il vous enseignerait quelque chose qui n'est pas conforme à l'enseignement de l'Église. Pour tout ce qui nous vient de Rome, même s'il y a des choses qui semblent ne pas plaire, ne pas être exactement ce qu'on attendait, il faut non pas se méfier, mais avoir le préjugé favorable. Et plutôt remettre en question ses propres réactions et celles des autres, fût-ce un prêtre. Je crois que c'est toujours très actuel. On a tellement tendance à faire confiance d'abord à notre jugement propre, notre sens propre, au lieu de nous ouvrir à la sagesse de Dieu qui passe par l'Église, qui passe par le Saint-Père. Et quand on croit que le pape est un grand esprit saint de l'époque, alors on a confiance et on suit, mais si les papes ne se ressemblent pas, bien sûr, c'est ce que le bon Dieu sait, ce qu'il faut pour chaque époque. Un prêtre qui était un prêtre saint. Et là, je vais un peu relire son ministère à la lumière du Concile Vatican II, ce que dit Vatican II sur les prêtres. C'est l'exercice loyal, inlassable de leur fonction dans l'esprit du Christ qui est pour les prêtres le moyen authentique d'arriver à la sainteté. Les prêtres réaliseront cette unité de vie en s'unissant au Christ dans la découverte de la volonté du Père et dans le don d'eux-mêmes pour le troupeau qui leur est confié. Assumant le rôle du grand pasteur, ils trouveront dans l'exercice de la charité pastorale le lien de la perfection sacerdotale qui assure l'unité de leur vie d'oration. Bref, la sainteté du prêtre consiste à exercer l'amour, la charité pastorale. Donc, comme la sainteté d'une famille consiste à exercer l'amour conjugal, et bien pour le prêtre, c'est la charité du pasteur. Et effectivement, chez le père Marie-Joseph, c'est vraiment cette charité pastorale, cet amour inlassable du bon pasteur pour son peuple, qui l'a rendu saint, et qui a unifié profondément sa vie et son ministère. Le ministère du prêtre qui se résume en trois verbes, enseigner, annoncer l'évangile, sanctifier et conduire. C'est ça en général que l'Église a choisi pour définir l'identité profonde de ce qu'est un prêtre. Donc Jésus, il annonce l'évangile, il enseigne, il sanctifie par les sacrements, par sa prière, et il conduit comme un berger son chacune de ses brebis. Et là, souvent, le Père nous a annoncé le kérigme dans son enseignement. Il nous parlait très souvent du Dieu tout amour. Le bon Dieu est là. Hein, et nous dit souvent le tabernacle, et Jésus est là pour nous, il est là, il m'aime, il nous aime. Par des phrases toutes simples, des paroles toutes simples, il nous est plongé dans l'amour de Dieu pour nous et de sa miséricorde. C'est vraiment l'amour du kérigme. Et puis après, il enseigne davantage dans une conférence ou un enseignement. Il nous aidait à discerner, à regarder aussi ce que fait l'Esprit Saint dans l'Église, dans le monde. Et bien sûr, il a beaucoup, beaucoup fait pour la famille, pour les familles. Dans son enseignement, il voulait vraiment nous emmener à la sainteté. Et un jour, il a cité ce que le Père Paul avait dit autour d'un camp, donc une des jeunes étudiants, on l'avait souvent dans les camps de ski, peut-être retourné, chez le Père Paul à Joyeuse-Lunaire. Et Paul Père Paul a dit, quand je parle aux jeunes, je leur parle de leur âme, de la sainteté, de la fuite du péché et du combat contre le mal. Le Père Marie-Joseph faisait vraiment sienne cette parole. Et une fois, il nous a dit, quand nous sommes revenus de la synagoga, des génies de Pologne, le Saint-Père vous a dédié autre chose en Pologne. Vous êtes revenu en chantant. En tout cas, c'est bien. Et le Père avait chanté avec nous, il nous avait pris la main, il avait chanté Abba Oche, il avait déjà 84 ans. Il nous avait attendu le soir, avant qu'on revienne, il ne s'est pas touché. Vous êtes remis en chantant et je vous ai mis en garde. Votre cœur est sincère, mais est-ce que c'est toujours dans la réalité? Vous avez décidé de la décrire comme circulaire, nous voulons devenir des saints. Qui veut aller loin doit partir tôt. Si vous venez ici à la JR, ce n'est pas pour autre chose que pour la sainteté. C'est cela la grande finalité de la JR, et c'est une immense grâce. Jésus vous regarde et vous aime. Il vous adresse ses paroles, viens et suis-moi. Et pour les réaliser, il nous a appelé la suite de Saint-François. Sur le prêtre après, sur le père comme point de sanctification, on a parlé. Et ce qui est prodigieux, je trouve, cette parole qu'il a eue avant son ordination sacerdotale, en vous mettre à sa sœur, bientôt je serai prêtre, ce n'est pas pour moi-même que Jésus a daigné et voulu me choisir, mais il a en vue les âmes qu'il veut aimer, sanctifier et béatifier par moi et en moi. J'ai pas mal de témoignages de prêtres et j'ai jamais vu ça dans un sens où il a pu aimer un prêtre. Et ça montre à quelle profondeur le Père vivait son sacerdoce. Et il ne vivait pas encore, parce qu'il est parti, mais quelle conscience le Christ lui donnait avant même d'être prêtre, de croire qu'effectivement le prêtre sanctifie, béatifie, aime les âmes. Par lui, ça se comprend, il est l'instrument du Seigneur pour agir de son nom. Il est aussi en nous-mêmes. Ça veut dire que tous ceux qui sont dans notre cœur, dans notre prière, ils sont sanctifiés, ils sont béatifiés par Jésus. Et donc ça demande déjà le degré d'inhabitation divine que vivait le jeune religieux Marie-Joseph avant même d'être prêtre. Et quelle identification à Jésus qui vivait déjà à ce moment-là, avant que ça devienne de plus en plus fort au cours de sa vie. Dans les sacrements, je retiendrai juste le sacrement du pardon. Quelle joie il avait de confesser, et il nous y invitait, et il le faisait d'une manière telle, et qui est vraiment la manière de ce que le pape François demande aussi aujourd'hui à nous comme confesseurs, sans poser de questions indiscrètes. Donc, n'était pas dans les détails, on n'était pas culpabilisé. Et au contraire, tel le père de l'enfant prodigue, il ne laissait même pas aller jusqu'au bout de l'accusation. Il ne pouvait pas de tous nos péchés. aussitôt, une parole de confiance, d'encouragement tombait, et la solution arrivait, et on était, la montée est énorme, le jeu est énorme, mais aussi le temps conditionnel. Mais je vous dis ça à tous, parce que c'est comme ça qu'il faut mieux la confession. Le prêtre n'est pas là pour vous juger, pour vous faire un discours, hein, mais il est là au nom de Jésus, qui se précipite pour faire miséricorde à tous ceux qui viennent le rencontrer dans ce sacrement. Et puis enfin, le Père comme pasteur, le Père qui conduit, qui mène au Dieu amour. Souvent, ça se manifestait dans ses enseignements, dans ses homélies. Il y avait plusieurs homélies à la messe avec le Père. Il y avait l'homélie depuis le début, quand il nous accueillait, il nous plongeait dans le ministère de l'Eucharistie. Il y avait l'homélie, en fait, après, quand il lisait l'Évangile, il s'arrêtait souvent à chaque phrase ou à commentaire en même temps qu'il lisait l'Évangile. Et la troisième homélie, qui était celle habituelle après l'Évangile, et souvent, après la communion, à la fin de la messe, il redisait un mot. Et tout ça, ça nous montrait ça, combien il était père et combien il était pasteur pour nous entraîner toujours plus loin dans l'amour du Christ, de l'Église et du Seigneur. Et pour terminer, je citerai juste une petite expression que moi j'ai entendue à la fin de sa vie. Je sais que nos aînés nous diront s'il la disait avant déjà. Il disait souvent, mes enfants, dans mon amour de Jésus pour vous, je vous dis cela, je vous dis ceci. Et je trouve que cette phrase, elle est aussi admirable. Dans mon amour de Jésus pour vous, cette phrase, elle dit aussi toute la charité pastorale du prêtre. Ça ressemble un peu à l'expression de Saint Jean-Marie Vianney, le sacerdoce, c'est l'amour du cœur de Jésus. Quand Saint Jean-Marie Vianney dit ça, c'est le sacerdoce, donc c'est à la fois le cœur de Jésus qui se donne aux fidèles par les sacrements, par la vie que le prêtre donne, hein, l'Eucharistie, le pardon, le baptême, qui est entré dans la vie divine, par la parole de vie que le prêtre transmet. Et puis le sacerdoce, c'est l'amour du cœur de Jésus, ça montre aussi tout l'amour que le prêtre a pour le cœur du Christ. C'est ce qui justifie notre célibat, hein, l'appel de célibat qu'on a reçu, on a tout lui donné. Bien, quand le Père disait « Dans mon amour de Jésus pour vous », il disait, on entendait le mot « Amour de Jésus pour vous », ça nous fortifiait nous dans notre foi en Jésus, en son amour. Ça disait aussi l'amour du Père pour Jésus, et ça disait l'amour de Jésus qui passait par le Père pour vous. Vous voyez cette triple circulation dans une phrase très simple, et que là-dessus j'ai retrouvé chez aucun autre prêtre jusqu'à maintenant. Et c'est génial, c'est la charité pastorale du Père. J'ai encore plein d'autres choses à dire, hein, comment son âme est assistérée et combien il nous a donné sa voix d'abandon et de confiance, le néant, la pauvreté, la tristesse devant Dieu, cette folie de l'amour, etc., etc. Et je laisse la parole à mon frère Fabien. Merci.